s'intitule « Analyse critique et politique de la société des Schtroumpfs ». Et comme nous allons passer une heure avec Antoine Bueno et qu'il va nous parler de lui et de ses réflexions et des Schtroumpfs, je vais prendre 3 minutes pour vous parler de moi, parce que je n'aurai plus l'occasion après et il s'est passé quelque chose avec ce livre. Quand on est animateur de rencontres ou modérateur de table ronde, on a le choix entre un certain nombre d'intitulés de table ronde, d'auteurs avec lesquels on va passer un moment. On décide ça d'ailleurs relativement tard. Une des conséquences agréables, c'est qu'on reçoit un tas de bouquins à lire dans la semaine. Et c'est un petit peu stressant, parce qu'on a bien envie de se dépêcher de tout lire. Et bien évidemment, quand au milieu d'un tas d'énormes pavés, il y a un petit objet étrange de ce type-là, bleu, on se précipite dessus et c'est ce que j'ai fait. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'arrive rarement. J'ai commencé à lire. Bon.
Ça, ah oui, ça déjà c'est...
Ça c'est moins rare.
Bravo Sylvie. Hein.
Faut que... Mais, Arrêtez.
C'est quand même énorme. Hein. Déjà, il y a eu quelques phrases échangées. Attendez, parce que elle vous a dit, si vous écrivez, parce que dans le tas, parmi vous, il y en a certainement qui écrivent ou qui veulent écrire. Il faut faire hyper court. Déjà, première leçon.
Tu me connais déjà, toi.
Tu viens de le dire.
Non, mais j'écris hyper court aussi. Et donc...
Non, mais Dostoïevski, Tolstoï, tout ça, mais...
Dans,
Proust,
dans les...
Flaubert...
Dans les... Non, tu parleras tout à l'heure. Je termine. Dans les 5 minutes qui ont suivi... Il a fallu que je me relève pour aller chercher un crayon. En général, quand on est lecteur, on ne prend pas systématiquement un crayon, mais là, je me suis dit, il faut absolument que je note les passages qu'il faut que je lise pendant la séance, parce que c'est trop génial.
Ah
et
ouais?
Ça, il faut absolument que je le lise quand on sera dans la table ronde, et puis si j'ai rien d'autre à dire, au moins, ils auront ce plaisir-là que je veux partager avec eux. Puis j'ai commencé à mettre des traits partout dans le livre, ce qui est très désagréable, parce qu'on a du respect pour les livres quand même, et écrire dedans, c'est toujours un peu... On a l'impression d'être irrespectueux. Et puis, j'ai pas pu lâcher le petit bouquin. Pourtant, c'était pas du tout dans mon programme immédiat de le lire intégralement. Mais je suis arrivée au tiers du bouquin. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est embêtant, j'ai mis des marques à toutes les pages. Donc, j'ai commencé à avoir un sérieux problème avec ce livre. Et d'ailleurs, je n'étais pas du tout stressée par ton arrivée très légèrement tardive. Je n'en fais pas une critique.
Et parce qu'en fait, je découvre la ville et je me suis un petit peu promenée. Alors, j'ai vu qu'il y avait il y a le château et il y a un jardin. C'est sympa.
C'est très agréable. Mais de toute façon, j'étais prête à vous le lire intégralement. Et je pense que vous y auriez pris le même plaisir jubilatoire que j'ai eu à le lire. Donc,
On peut y aller. Hein. Vous avez combien de temps devant vous?
Alors, je vais... Comme je sens que tu ne me laisseras pas beaucoup la parole.
Non, non, vas-y, Sylvie, non, mais vraiment, non, c'est ton moment, il n'y a pas de problème.
Je vais vous dire 2-3 mots sur Antoine Bueno, en tout cas ce qu'on découvre dans sa bibliographie et biographie publique. Sans doute tout n'y est pas dit, mais il y a déjà des choses intéressantes. Il a écrit quelques romans et essais dont je vous livre les titres. Ils sont beaux. Le soupir de l'immortel.
Ça, c'est vachement bien.
Mais j'aime beaucoup, je suis de droite et je vous emmerde.
Ça, c'est moins bien.
Le triptyque de l'asphyxie.
Moyen. Non, faut être honnête.
Spectateur.
Ça, c'est de la merde. Alors, ça me tombe des mains, le livre de jeunesse. Mais enfin, achetez-le quand même.
Antoine Bueno a écrit pour le théâtre. Son analyse des Schtroumpfs en termes de modèle de société, c'est déjà son 2e essai. Je crois qu'il y a une adaptation théâtrale.
Oui, si vous passez à Paris, bah, vous êtes cordialement invité. L'adaptation du petit livre bleu a donné Politiquement Schtroumpf. C'est une pièce conférence où je développe mes théories absolument ineptes sous la forme d'une une sorte de conférence pataphysique complètement délirante. Puisque, bon, moi, j'ai une blouse de vieux prof d'antan et une cravache au cas où vous comporteriez mal. Je suis apparemment extrêmement sérieux. Et puis, j'ai à mes côtés des schtroumpfs en chair et en os. Donc, 2 schtroumpfs et 1 schtroumpfette qui viennent mimer les vignettes. Et puis, il y a aussi un PowerPoint, puisque, bien entendu, on ne peut plus aujourd'hui faire de conférences sans PowerPoint, avec des images complètement décalées. Par exemple, quand je dis que l'or est la source des pires vices, eh bien, vous avez une image de vice. Hein, comme ça, tout le monde peut comprendre en temps réel.
Voilà, donc vous avez un conférencier ici qui est quand même un conférencier expert, puisqu'on découvre dans sa biographie qu'il est chargé de mission au Sénat et professeur d'utopie à Sciences Po. Je ne savais pas quel pourrait être le plus beau métier du monde. Maintenant, j'en ai une idée. être professeur d'utopie.
Ah oui, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé.
Des questions à poser. Je ne vais pas t'interroger tout de suite sur ton activité de professeur d'utopie, mais tu peux peut-être un petit peu nous parler déjà du projet du bouquin sur les Schtroumpfs.
Bon, alors déjà, merci d'être là. Et puis je dois vous dire qu'après une telle présentation, on a un léger renflement des chevilles, peut-être aussi des problèmes urinaires, donc je vous dirai par la suite comment ça se passe. Merci beaucoup Sylvie, hein, je ne sais pas quoi dire après un tel flot d'éloges.
C'était pas le but.
non, mais j'espère. Hein. Bon, bref, donc on peut aussi le faire de manière, je vais vous parler bien sûr du petit livre bleu, mais comme vous êtes là, vous pouvez me poser des questions, on peut le faire de manière assez détendue, interactive. Alors, le projet du livre, je commence par décrire le livre ou sa réception, parce que sa réception, elle est coton quand même.
Ah bah tu fais comme tu veux.
Bon, alors donc, le petit livre bleu s'est sorti en juin dernier, et un mois avant même la sortie du livre, une dépêche AFP rend compte de sa publication prochaine. Alors, pour l'anecdote, la journaliste devait partir en vacances, elle trouvait l'idée sympa et elle ne voulait pas que ça passe à la trappe, donc elle sort la dépêche, un mois avant la sortie du livre. Donc déjà, c'est pas top pour la promo. Mais surtout, à partir de là, c'est la déferlante, c'est-à-dire une polémique schtroumpfesque qui me dépasse complètement, puisque comme Sylvie l'a dit, moi j'avais publié plusieurs livres, j'avais eu des petits succès d'estime, et bon, enfin, je peux pas du tout me plaindre de la réception de mes autres livres, mais enfin, une polémique comme ça sur ce qui me... était un peu une plaisanterie, enfin une galéjade, quelque chose qui était à la limite, à la frontière, justement, on y reviendra si vous voulez là-dessus, entre l'analyse sérieuse et le projet complètement auto-dérisoire, parce que qualifier les petits êtres bleus de peyots aussi mignons et charmants d'horribles nazis, staliniens, utopistes totalitaires, bah, la première personne dont je me
et
fous de la gueule...
Et reptiliens.
Ah, reptiliens, j'ai pas... Ah oui, ça c'est sur l'anatomie. Oui, si vous voulez, on pourra parler de la biologie du Schtroumpf, qui est aussi extrêmement... Non, mais il y a des choses à en dire, hein, très, très, très sérieusement. Et donc là, je commence à voir et à recevoir un tas de choses. Alors, ça va du mail, finalement, assez concis. Je dirais le plus efficace, c'est « connard ». Il y avait des variantes de gros cons, enfin, voilà, donc là, au moins c'était assez clair. J'apprécie, moi, c'est aussi pareil comme Sylvie, cette concision, c'est-à-dire qu'on voit vraiment toute l'idée dans le message. Et puis après, ça s'est décliné, c'est devenu autre chose. Alors, j'ai reçu des choses les plus extravagantes, je vous les livre. J'ai eu la fachosphère contre moi, l'extrême droite, m'accusant d'être un juif caché et honteux, poursuivant le combat éternel d'Israël contre la vraie France. C'est une citation. Alors pourquoi ? Et il faut le comprendre, quand même, parce que d'abord, quand on reçoit ça, d'abord, il y a une certaine fierté. Il faut le dire. Je ne sais pas s'il y a l'auteur de ce message dans la salle, peut-être. Merci. Et puis après, il faut comprendre pourquoi. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que j'analyse un certain nombre d'images dans l'œuvre de Peyot, dans les Schtroumpfs, dont ça c'est quelque chose peut-être auquel vous aviez pensé, il y a beaucoup de gens qui y ont déjà pensé, le faciès de Gargamel qui ressemble aux caricatures antisémites, le fait qu'il soit accompagné d'un chat qui s'appelle Azrael. Alors Azrael est le nom d'un ange déchu dans la Bible, mais c'est l'allitération, c'est la proximité avec Israël, bien sûr, il n'y a qu'un son d'écart, la cupidité de Gargamel, en fait c'est un certain nombre d'images d'Épinal, que dès les premières lignes du livre, je n'impute pas du tout à l'auteur, pas du tout à Peyot, puisque lui, en fait, ne s'intéressait pas du tout à la politique. Pour moi, c'était vraiment un homme en avance sur son temps, puisque Peyot publie en pleine guerre froide, mais lui, il se fout complètement des idéologies, ça ne l'intéresse pas, il sait à peine que la Chine est communiste. Non, ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire du pognon, c'est le marketing. Quand même, Peyot, c'est le créateur des petites figurines, des produits dérivés, avant même Georges Lucas. Et par exemple, dans tous les pays de l'Est, on connaît les Schtroumpfs par les figurines, par les produits dérivés. Donc c'est un génie marketing, et pour moi, c'est vraiment un homme d'après la chute du mur de Berlin. Donc il n'est pas du tout dans cette problématique-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour faire du pognon, c'est-à-dire pour divertir le plus grand nombre, allez, faire du pognon, c'est péjoratif, mais divertir le plus grand nombre, c'est-à-dire faire vraiment une œuvre populaire, c'était ça qu'il avait chevillé au corps, il a bien été obligé d'utiliser des images qui parlent à tous, des images qu'on a tous soi-même dans la tête, sans consciemment, évidemment, être pour le moins du monde, antisémite, raciste, etc., et qui, en fait, nous parle de notre fond d'imagerie collective qui dépasse largement les racismes du XXe siècle, qui dépasse évidemment maintenant largement payot et qui dépasse même les siècles passés, cette espèce d'image du juif associé à l'alchimiste, cupide, ça nous vient des profondeurs du Moyen-Âge, et c'est ça moi qui m'intéresse d'analyser, c'est de voir comment, en voulant faire une œuvre la plus populaire possible, on a dans notre fond collectif des images dont on aimerait se débarrasser, qui sont en décalage avec notre propre conscience. Alors là-dessus, les gens, évidemment, n'ayant pas pu lire une seule ligne du livre, puisque c'était un mois avant, se déchaînent. Alors, la fachosphère, parce que je vois de l'antisémitisme, donc je poursuis ce combat éternel d'Israël. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Des trucs très, très variés et aussi sympathiques, parfois. Alors, par exemple, j'ai une dame qui m'écrit en me disant « Alors, bravo pour votre analyse. Comme Sylvie, moi, j'ai adoré. » Alors, ça fait super plaisir, bien sûr. Et moi-même, je suis l'auteur d'une analyse des Barbes à Papa. Et alors, je suis très sérieux, c'est une analyse extrêmement bien, parce que moi je profite d'avoir le micro pour pouvoir aussi parler de ce que font les autres, donc elle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais vous tapez Barba Papa, analyse, machin, et vous allez tomber sur un truc vachement bien, les bibliothécaires, rien à voir avec la sauce, mais ça l'a intéressée, et elle a essayé de gratter derrière cette œuvre populaire, qui a peut-être bercé son enfance, qui lui parle peut-être de manière personnelle, et elle a trouvé toute la déliquescence du modèle familial dans les années 70, retracée dans les Barba Papa. Assez intéressant quand même, c'est plutôt pas mal. J'ai eu une lettre d'un vieux monsieur qui me dit « Bon, monsieur Bueno, bravo pour votre analyse, c'est très bien tout ça, on passe très vite, hein, il en avait rien à foutre de mon livre, mais il faut que je vous dise une chose, c'est entre nous, comme ça, je suis le véritable inventeur du mot Schtroumpf. C'est moi qui l'ai inventé, je dînais avec un ami, et tout d'un coup je sors Schtroumpf. Je sais pas comment Peyo s'est procuré ça, mais c'est moi le vrai inventeur du mot Schtroumpf. » Vous voyez, c'était assez surprenant. Surprenant de la manière, donc de par la nature même des réactions, et de par leur ampleur, puisque après avoir buzzé en France, eh bien figurez-vous que ça a buzzé dans le monde entier. Puisque les Schtroumpfs sont connus dans le monde entier, avec des noms différents pour chaque pays, c'est les Smurfs dans les pays anglo-saxons, c'est les Kumafu au Japon, c'est les Dardassim en Israël, etc., etc. On va peut-être pas faire non plus tous les pays du monde. Et donc, à partir du moment où les médias anglo-saxons s'emparent du phénomène, parce que c'était un phénomène français, donc le premier c'était le Huffington Post, c'est vraiment des catalyseurs, et donc après tous les médias du monde y viennent, et je me suis retrouvé, alors que vraiment je m'y attendais pas, à répondre à des interviews de Corée du Sud, du Brésil, etc. Tout le monde s'est intéressé aux Schtroumpfs, sauf les Russes, puisque apparemment, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul pays ou l'un des seuls pays au monde où les Schtroumpfs n'ont pas percé et les Russes ne semblent pas connaître les Schtroumpfs.
C'est peut-être pas un hasard au vu des théories qu'ils développent.
Oui, ils sont peut-être trop communistes pour la Russie, surtout de l'époque, l'URSS.
Alors, je pense qu'on va parler pas mal de l'aspect politique, puisque c'est quand même celui que tu as le plus approfondi, mais avant, je pense que si vous êtes d'accord, je vous lirai bien un petit passage sur la nature biologique des Schtroumpfs.
Ah oui, allons-y. Oui.
Pour que vous ayez une idée de la manière dont travaille l'auteur, d'une manière extrêmement rigoureuse, rationnelle, faisant appel, traitant avec beaucoup de sérieux des sujets qui ne sont pas, peut-être pas autant que ce qu'on pourrait penser, et qui à l'analyse finissent par être extrêmement sérieux et intéressants.
C'est la devise Shadok, en fait.
Oui.
C'est
mieux vaut mieux utiliser son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes.
Voilà, voilà.
C'est un excellent précepte.
Voilà.
Je vous encourage
voilà.
à l'adopter.
Voilà, mais ceci dit, on va nuancer quand même, parce que ça, en fait, c'est pour rire. Parce qu'une autre des critiques qu'on m'a faites, c'est le prof suffisamment oisif pour s'intéresser aux Schtroumpfs, pour analyser les Schtroumpfs.
On le fait à tous ceux qui écrivent de la science-fiction, pareil. Donc,
Alors là, je trouve ça extraordinaire. Je vois pas quel sujet peut être plus sérieux qu'une œuvre populaire qui a bercé maintenant plus d'une génération, qui est connue dans le monde entier et qui nous parle de notre société et de nous-mêmes. Je vois pas ce qui est plus sérieux. Bon.
Donc nous allons parler de la biologie des Schtroumpfs. On parlera après de leur rapport au progrès, de leur rapport au désir et tout un tas d'autres choses. Mais ce passage-là, quand même. Le Schtroumpf est un lutin bleu des bois humanoïde. Par-delà cette description générique, la bande dessinée livre à l'observateur attentif des observations importantes sur l'anatomie, la morphologie et la physiologie du Schtroumpf, mais laisse dans l'ombre des éléments cruciaux de l'aspect et du fonctionnement de son organisme. Le Schtroumpf est d'abord dit haut comme trois pommes, sans plus de précision. En particulier, il n'est jamais fait mention du type de pomme utilisé pour effectuer la mesure.
Ben oui.
Comme chacun sait, il existe une grande variété de pommes, de tailles très différentes. Une courte enquête maraîchère permet de réaliser l'opération suivante. Les plus petites pommes sont les rainettes, en moyenne 5 cm. Les plus grandes pommes sont les golden, en moyenne 10 cm. Conclusion, Un schtroumpf adulte doit mesurer en moyenne entre 15 cm et 30 cm. Ensuite, le schtroumpf est un être disproportionné. Comme les bébés, il a une très grosse tête par rapport au reste du corps. Cette grosse tête est ronde et toujours coiffée d'un bonnet. À un seul moment dans la BD, un schtroumpf apparaît tête nue. Une vignette des schtroumpfs noirs montre le grand schtroumpf dont le bonnet s'est envolé dans l'explosion de son laboratoire. On y découvre que son crâne est chauve, plat et lisse. Ce qui conduit à s'interroger sur le système pileux des schtroumpfs. Sont-ils tous chauves ou est-ce propre au grand schtroumpf plus âgé que les autres? Les schtroumpfs sont-ils totalement imberbes? Leur peau semble glabre. Mais la barbe du grand schtroumpf et les cheveux de la schtroumpfette laissent à penser le contraire. Cependant, on ne voit jamais non plus de schtroumpf se raser. Le mystère reste donc entier. Par ailleurs, le schtroumpf dispose d'une face bafflue, principalement occupée par de très grands yeux ovales verticaux et une grande bouche. Il a aussi des dents, mais ne les montre qu'en de très rares occasions, quand il est en colère ou mal intentionné, comme par exemple en couverture de la menace des schtroumpfs, la menace schtroumpf. Le schtroumpf a aussi un petit nez sans narine apparente. On peut penser qu'il ne respire pas par le nez. Ce que confirme l'étude du reste de son anatomie. En effet, le tronc du schtroumpf a la forme d'une poire. Son buste va en s'élargissant pour s'ouvrir sur un ventre bombé. Sa cage thoracique ne peut donc laisser place à des poumons performants. D'autant moins que le schtroumpf est herbivore. Il se nourrit presque exclusivement de salses pareilles, de baies et de babas au schtroumpf. Et doit disposer en tant que tel d'un estomac volumineux et puissant, ainsi que d'un long tube digestif, ce qui occupe du volume. À l'instar de certaines salamandres et grenouilles, le schtroumpf pourrait donc respirer par la peau. Dernier élément de disproportion, les bras et les jambes du schtroumpf ressemblent à des cannes terminées par de grandes mains et de grands pieds à quatre doigts et orteils. Enfin, la conjoncture n'est même pas permise pour certains aspects fondamentaux de la biologie du schtroumpf, dans la mesure où ils nous sont totalement inconnus. Que cachent les schtroumpfs sous leur collant? Ils ont une petite queue. Cela est acquis. Mais ont-ils également un anus et des organes génitaux? Impossible à dire. Il n'est jamais fait mention de leurs besoins naturels. La BD ne nous informe pas sur le point de savoir si ces êtres défèquent ou urinent. Le schtroumpf est-il immortel? Je ne sais pas jusqu'où je vais aller parce que...
Ben on peut peut-être, non, on peut peut-être déjà, je peux oui. déjà dire okay. deux, trois mots. Alors, la théorie biologique du schtroumpf, c'est un vrai biologiste. Hein. Ça aussi, vous le trouvez sur Internet. Il s'appelle Furlow. Et donc là, vous pouvez retrouver toute cette théorie sur le fait que les schtroumpfs respirent par la peau. Alors, c'est un vrai scientifique hein, qui s'interroge et qui se dit, bon, s'ils ont la peau bleue, pourquoi, etc. Et il compare le schtroumpf à certaines grenouilles ou salamandres. Et ça serait donc cette respiration cutanée qui serait responsable de la couleur bleue de leur derme, peut-être liée à la présence de cuivre dans leur hémoglobine. Vous voyez jusqu'où le délire peut aller. Et l'autre remarque que je voulais vous faire, c'est sur haut comme trois pommes. Et ça, c'est aussi une autre réception que j'ai eue de l'ouvrage qui, pour moi, je tombais des nues. C'est-à-dire qu'on m'a reproché, c'est la critique universitaire, c'est-à-dire qu'on m'a reproché de ne pas avoir fait un ouvrage vraiment académique, vraiment universitaire. Ben, enfin, non, c'est évidemment pas le but. Et par exemple, il y a une vraie...
Il y a des notes de bas de page.
Oui, enfin, c'est un délire.
Dans le milieu universitaire.
Non, mais et donc il y a une vraie universitaire, mais bouffie de prétentions, qui a écrit un article absolument insupportable, notamment en faisant remarquer que « haut comme trois pommes » était une expression imagée à ne pas prendre au premier degré. C'est-à-dire le degré de connerie.
Alors... Au-delà de la nature biologique qui ne fait partie que des questions préliminaires qu'on évacue rapidement, il y a des tas d'aspects relatifs au modèle social et au rapport qu'ont les schtroumpfs au progrès scientifique. Je ne sais pas si tu as envie de nous parler de ça ou tout de suite du modèle de société qui est décrit dans le monde des schtroumpfs, qui est visiblement une société froide. Alors je ne sais pas si vous connaissez la distinction entre une société chaude et une société froide. C'est en gros un rapport au temps. Les sociétés froides étant des sociétés qui fonctionnent sur un principe plutôt cyclique et dans lesquels c'est la coutume qui régit l'organisation sociale, alors que les sociétés chaudes, tu me diras si c'est bien la vision et le sens dans lequel tu l'as pris, les sociétés chaudes sont des sociétés de progrès qui se transforment, qui évoluent. Les sociétés froides, fondamentalement, sont des sociétés stables. Si un événement vient les perturber, ensuite elles retournent à l'état initial, ce qui est le principe général de construction de toutes les aventures. Donc... une société froide.
Voilà. Alors, je vais peut-être vous parler du fond du livre, hein, tout simplement. Alors, dans ce livre-là, je me suis amusé et je c'est très peu compris en France, mais c'est apparemment, puisque j'ai eu des contacts de fait avec l'étranger, beaucoup mieux compris à l'étranger, à faire quelque chose qui est sur le fil du rasoir, entre l'énorme délire et l'analyse un peu plus sérieuse. Donc il y a des parties qui relèvent plus de l'analyse sérieuse, et il y a d'autres parties qui, mais c'est à l'évidence, enfin c'est même pas la peine de sous-titrer, relèvent un petit peu plus du délire. L'esprit global, c'est un petit peu les Shadock, c'est un petit peu le professeur Rollin, c'est un petit peu même les Monty Python, parce que les Monty Python, quand ils nous font la vie de Brian, on se marre d'un bout à l'autre, ou la quête du Graal, on se marre aussi, mais en même temps, ils attaquent des sujets, des questions extrêmement sérieuses, et pour moi, c'est presque la manière la plus sérieuse de traiter les choses. Donc, alors moi, dans mon semi-délire, j'arrive à la conclusion que le village des Schtroumpfs est un archétype d'utopie totalitaire, empreinte de stalinisme et de nazisme. Alors, on a énormément glosé, évidemment, sur le stalinisme et le nazisme. Peut-être qu'on va y revenir par la suite, parce que c'est les trucs, évidemment, les plus sulfureux. Mais la partie, en tout cas, qui, sur le fond, à mon sens, est la plus intéressante, c'est ce dont parlait Sylvie, c'est la partie qui relève de l'utopie. C'est en quoi est-ce qu'on s'aperçoit que toutes les utopies traditionnelles, alors l'utopie de Mort, la République de Platon, enfin, il y a plein d'exemples, hein, c'est quand même un genre littéraire très développé, ont des caractéristiques communes. Alors, c'est l'absence d'argent, c'est la collectivisation des biens, de la production, c'est l'isolement, l'ascétisme, voilà, des choses comme ça, le rejet du progrès, ce qui se comprend très bien d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on est en utopie, c'est qu'on est dans une société parfaite, où tout le monde est heureux, à partir de ce moment-là, il vaut mieux que rien ne change, et le progrès technique est facteur de déstabilisation. Donc, toutes ces caractéristiques-là, miracle, on les retrouve dans les Schtroumpfs. Et c'est là qu'on voit que Peyot est un véritable utopiste. Et c'est un petit peu le village des Schtroumpfs, on pourrait dire l'utopie pour les nuls. Vous avez toutes les caractéristiques, et tous les enfants peuvent être vraiment initiés à ce qu'est un monde utopique. Ouais.
Ça doit être un problème technique.
Ah, d'accord. Voilà. Et donc, alors en particulier, effectivement, là, ça c'est un élément de la stabilité, c'est le rapport des Schtroumpfs au progrès technique, puisque je sais pas si vous avez en tête des albums de Schtroumpfs, par exemple, il y a On ne Schtroumpf pas le progrès, qui est entièrement consacré à la question, et de toute façon, même dans les autres albums, on est aux prises ou en contact avec des avancées technologiques qui foutent la pagaille au village et qui évidemment ne s'y retrouvent jamais. Heureusement, il faut revenir à l'état initial qui est un état de toute façon parfait. En fait, c'est Lévi-Strauss, la différence entre société chaude et société froide. Et ça a été une autre des accroches de la fachosphère. Ils m'ont invité sur l'une de leurs radios que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Ici et Maintenant. C'est très drôle, hein, je vous conseille de l'écouter. C'est Radio Complot. C'est la radio de tous les complots. Si vous avez d'ailleurs en tête un complot, vous pouvez leur soumettre. Ils seront ravis de vous donner la parole et l'antenne. Et donc, sur Radio Complot, ils m'ont, moi, accusé de faire le procès. C'est une autre attaque, un autre angle d'attaque de la société traditionnelle. Parce qu'effectivement, eux faisaient la confusion entre utopie, dont je parle effectivement, et société traditionnelle, que eux, évidemment, portent de leur vœu, enfin, dont eux déplorent la disparition. Voilà.
En tout cas, il est évident qu'on n'est pas dans un modèle de société libérale où c'est l'individu qui sauve la société. On est clairement dans le modèle inverse, où c'est la société qui peut sauver les individus.
D'ailleurs, très rare. C'est une œuvre où le héros est un groupe, oui. Le héros est une collectivité. J'ai cherché, je crois qu'à l'époque où je cherchais, j'en avais trouvé, mais là j'ai oublié. Si vous avez des idées, c'est assez rare.
Oui, donc on a des Schtroumpfs qui a priori ne sont jamais ni déprimés ni malades, qui ne ressentent ni haine, ni jalousie, ni égoïsme, qui n'ont aucun rapport à la propriété, qui ne sont pas intéressés par l'argent, mais qui a priori ne possèdent rien de manière claire. Mais justement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tourne mal, ce qui est le point de départ de chaque aventure, c'est parce qu'un Schtroumpf est déprimé, ou qu'il a envie de s'en aller, ou qu'il ressent un sentiment de propriété vis-à-vis d'un des objets qu'il possède. En tout cas, il y a un problème, ou le problème vient de l'extérieur. Le jour où un Schtroumpf rencontre le puits au vœu et qu'on lui propose d'émettre des souhaits, voilà, il y a un problème qui se pose.
Mais ça, on peut dire que c'est quand même un ressort scénaristique qu'on retrouve à peu près partout. C'est-à-dire que vous avez une situation A, un élément de perturbation, et on retourne à l'état initial. Mais ça, c'est vrai, chez les Schtroumpfs, c'est réparti.
Mais ce qui est original, c'est qu'à chaque fois, c'est la société qui résout le problème. Ce n'est jamais un héros, sachant qu'il y a quand même un personnage qui a un rôle particulier, c'est le chef. Le chef est omnipotent, le chef est omniscient, et lui seul peut sauver la société en rétablissant l'équilibre.
Donc vous voulez qu'on parle du Grand Schtroumpf ?
Non, je sais pas, on parle de ce que tu veux. Tout est passionnant, non ?
Donc, on peut dire. Mais d'ailleurs, vous pouvez aussi. Je ne sais pas s'ils peuvent aussi poser des questions, mais il y a beaucoup de choses à dire sur chaque personnage, mais en particulier sur le Grand Schtroumpf, oui, effectivement, qui cumule, si on s'amuse à l'analyser sous un angle de pseudo-science politique, tous les pouvoirs. Puisque, d'abord, c'est évidemment le pouvoir judiciaire, c'est lui qui tranche, il est tout seul d'ailleurs à le faire, tous les litiges. C'est aussi le pouvoir législatif, c'est le seul à fixer les règles collectives. Et enfin, c'est le pouvoir exécutif, puisque c'est le seul détenteur du pouvoir disciplinaire. Donc on a vraiment un chef qui est investi de tous les pouvoirs, et surtout, en dessous du chef, on a tous les Schtroumpfs à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure intermédiaire dans la hiérarchie des Schtroumpfs, dans la structure sociale du village, entre le chef et la masse du peuple. Et c'est en ça que j'ai vu un modèle de société totalitaire, c'est-à-dire une société que Hannah Arendt, qui est l'une des grandes théoriciennes du totalitarisme, qualifie d'atomisée. Vous avez le chef, pas de structure intermédiaire, et le peuple, tout le monde à égalité. Et à égalité, ça, ce que je vous décris, c'est pour la structure, disons, verticale. Mais ça se retrouve aussi à l'horizontale, puisque la particularité de ces sociétés-là, c'est d'être corporatiste. C'est-à-dire que les individus, tous à égalité, seuls, peuple face au chef, sont classés en fonction de leur rôle social. Eh bien, c'est exactement ce qui caractérise le village des Schtroumpfs, puisque chaque Schtroumpf représente une fonction sociale. Et donc, le village des Schtroumpfs serait, de manière évidemment totalement involontaire de la part de Peillot, la représentation d'une société corporatiste stylisée, donc un totalitarisme parfait.
Alors, il y a un autre point, puisqu'on parle d'une société homogène où ils sont à peu près tous identiques, à quelques exceptions près, c'est qu'il y a une vraie question sur laquelle il est important de réfléchir, c'est est-ce que les Schtroumpfs sont tous... Sont-ils tous des hommes, à part la Schtroumpfette
et un autre
personnage qu'on voit moins souvent? Ou bien est-ce que la population Schtroumpf se divise entre créatures sexuées et créatures asexuées? En tout cas, on a un seul Schtroumpf féminin dont la sexualité est clairement visible. Et si tu permets, je vous rappellerai bien comment a été conçue la Schtroumpfette. La liste des ingrédients nécessaires à la confection de la Schtroumpfette. Un brin de coquetterie, une solide couche de parti pris, trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge cousu de fil blanc, évidemment, un boisseau de gourmandise, un carteron de mauvaise foi, un dé d'inconscience, un trait d'orgueil, une pinte d'envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d'esprit volatile et beaucoup d'obstination, une chandelle brûlée par les deux bouts. Voilà la liste des ingrédients qui composent la Schtroumpfette.
Alors le cas de la Schtroumpfette est extrêmement, extrêmement intéressant, parce que c'est le seul travers politique dont Peillot avait parfaitement conscience. Parce qu'évidemment, on n'a pas du tout la même approche des rapports hommes-femmes qu'outre-Atlantique. Et c'est pour ça que quand Anna Barbera, le producteur qui allait devenir celui du dessin animé, a voulu adapter les Schtroumpfs, les Américains se sont complètement arrachés les cheveux. Quand ils ont vu cette espèce de pintade qui était la seule à incarner la féminité...
Blonde
en plus, c'était vraiment... on va revenir justement sur ces aspects raciaux. Ils ont vu rouge et il a fallu intégralement revoir le personnage de la Schtroumpfette pour le dessin animé. Donc dans le dessin animé, je ne sais pas si vous en avez des souvenirs, mais elle n'a pas du tout le même rôle que dans la BD. Moi, je m'intéresse qu'à la BD dans l'analyse. Mais elle est beaucoup plus... Elle est beaucoup plus décisionnaire, elle est beaucoup plus présente. C'est pas du tout la Godichon que Peillot avait imaginé. Mais Peillot, ça, il l'assumait parfaitement. Et dans son esprit, c'était un peu comme s'il faisait une blague de blonde. C'était vraiment le machisme, bon enfant, franchouillard, qui a fait que nous, on a regardé l'affaire DSK avec plus de dieux rieurs que d'indignation, contrairement aux États-Unis. C'est tout ça qui se trouve résumé chez Peillot dans son approche avec cette formule de la Schtroumpfette. Et la Schtroumpfette, elle est extrêmement intéressante pour deux raisons. La première, c'est que, à mon sens, elle illustre parfaitement ma théorie du corporatisme. Si vraiment le village des Schtroumpfs est une société corporatiste stylisée, ben il est complètement normal qu'il n'y ait qu'une seule Schtroumpfette, puisque chaque Schtroumpf représente une fonction sociale. Et donc, la Schtroumpfette représente, dans cette optique réactionnaire et corporatiste, la fonction sociale d'être femme. On sait que dans une optique tradie, être femme est une fonction sociale, et donc c'est bien naturel qu'il n'y ait qu'une seule Schtroumpfette, de la même manière qu'il n'y a qu'un seul Schtroumpf bricoleur, qu'un seul Schtroumpf gourmand, etc. Et puis, par ailleurs, effectivement, elle est intéressante, la Schtroumpfette, parce qu'elle représente une conception de la femme qui, de prime abord, paraît caricaturalement judéo-chrétienne. Le parallèle est même assez frappant, puisque vous savez que dans la Bible, évidemment, l'homme préexiste à la femme. Et bien, chez les Schtroumpfs, le Schtroumpf préexiste à la Schtroumpfette, puisque c'est une créature de Gargamel. Et quand on va plus loin dans l'analyse, on s'aperçoit que le statut de la Schtroumpfette est encore moins enviable que celui de la femme dans la tradition judéo-chrétienne. Parce qu'au moins, Ève reste une créature de Dieu. C'est une créature d'un personnage positif, a priori Dieu. Hein, et elle est conçue par clonage, à partir d'une côte d'Adam, hein, techniquement. Donc c'est un produit aussi naturel. Alors que la Schtroumpfette, elle est produite par Gargamel. Elle est conçue comme vraiment un foutage de merde, mais total. Elle est envoyée par Gargamel pour vraiment déstabiliser complètement. Alors on ne peut pas avoir une perception plus négative de la femme. Donc pour déstabiliser le village des Schtroumpfs, il n'y a pas de pire fléau, selon les termes même de Gargamel. Et donc, elle est produite par le mal et pour le mal.
On a une société où on a des individus interchangeables et strictement identiques, quelques individus reconnaissables à leur fonction ou à des traits de personnalité ou des faiblesses, mais ça revient sans doute à peu près au même, c'est un des aspects de ta théorie. Mais il y a une caractéristique intéressante, c'est que au fil des albums, il y a des Schtroumpfs qui arrivent, on n'en voit jamais mourir, mais ils sont toujours sans.
Oui, alors ça c'est un point particulier de l'utopisme de Peillot, c'est que dans la plupart des utopies classiques, vous retrouvez une sorte de fétichisme du chiffre et de la géométrie, de la symétrie, mais c'est normal, ça va avec l'idée de perfection. Et c'est pour ça que les bâtiments, souvent, ou les cités utopiques, sont de magnifiques formes géométriques qui confinent au vaisseau spatial de Star Trek, un petit peu sectaire. Et donc là, Peillot, lui, va extrêmement loin dans la symétrie et la géométrie, puisque ce n'est pas les bâtiments qui sont identiques, hein, les Schtroumpfs vivent dans des champignons, et chaque champignon est bien différent des autres, mais ce sont les individus eux-mêmes. Puisqu'il est absolument impossible de distinguer un Schtroumpf d'un autre, comme si c'était une société de clones. Et non content d'être exactement identiques, les Schtroumpfs s'habillent exactement de la même manière, puisque ils n'ont que leur bonnet blanc et leur collant blanc, c'est-à-dire qu'ils doublent leur parfaite identicité par le port de l'uniforme.
J'étais en train de chercher, j'ai marqué tellement de passages que j'arrive plus à les retrouver. Ça,
c'est... Mais peut-être qu'on peut aborder...
Oui. Un petit peu,
oui. Parce qu'on parle de l'individualisme. D'ailleurs, c'est bien, mais n'hésitez pas. Oui.
Sur la Schtroumpfette,
oui.
Comment vous analysez,
on peut se tutoyer, ça va.
Bon, ouais. Tu analyses le fait que la Schtroumpfette avait été envoyée par Gargamel pour effectivement mettre le boxeur dans la société des Schtroumpfs, mais initialement, quand elle arrive dans le village,
alors, très bon.
Mal fagotée.
Oui, question extrêmement intéressante, c'est sur l'évolution du personnage de la Schtroumpfette. C'est vrai qu'elle arrive, elle est une bombe, elle est censée déstabiliser le village, et puis à la fin. Elle est intégrée à la communauté et elle devient un personnage important. Alors ça, on arrive justement peut-être à ce sur quoi tu voulais arriver, c'est le racisme. Évidemment, le truc le plus sulfureux. Alors, qu'est-ce qu'on a au départ ? On a au départ une caricature de juif, hein, Gargamel, avec son chat Azrael qui veut trouver le secret de la pierre philosophale pour faire de l'or, c'est-à-dire capitaliser au sens premier du terme, qui veut se venger aussi des Schtroumpfs et qui pour ça crée un fléau qui est une Schtroumpfette. Mais... Ce personnage, évidemment, il est ignorant des bons canons raciaux. Et donc, il conçoit au départ sa Schtroumpfette brune. Terrible erreur, puisqu'à partir du moment où elle arrive au village des Schtroumpfs, brune, elle ne suscite que du désagrément, de l'indifférence, voire de la méfiance. En brune, je suis désolé hein, s'il y a des brunes dans la salle, hein, c'est vraiment payot, elle est jugée absolument affreuse, elle est laide, et elle est laide au point que les Schtroumpfs finissent par la prendre en pitié, évidemment, et lui administre une opération de chirurgie esthétique Schtroumpf qui la transforme en blonde. C'est le grand Schtroumpf qui exécute l'opération. Et c'est très intéressant du point de vue du canon racial, puisque à partir du moment où elle sort du laboratoire du grand Schtroumpf, où elle est devenue une bimbo blonde, tous les Schtroumpfs en tombent instantanément amoureux et elle devient intégrable à la société. C'est-à-dire que sa blondeur l'a rendue belle, désirable et socialement acceptable. Alors, c'est vrai que le personnage a été conçu sur le modèle soit de Brigitte Bardot, soit de Marilyn Monroe, mais on peut quand même s'interroger sur pourquoi ce détour par le brun et sur ce que peut nous rappeler l'idéalisation de ce type humain.
On peut passer, parce qu'on travaille la question sous un tas d'angles dans cet essai, et en quoi le Schtroumpf est-il une représentation d'un modèle stalinien ? Quelle est la place du stalinisme ? Il y a tout un tas d'aspects. Il y a la nature révolutionnaire du Schtroumpf qui est attestée par le bonnet phrygien que vous avez reconnu sans doute. Il y a la présence abondante de marteaux et de faucilles.
Oh, pas abondante, mais c'est vrai qu'on retrouve...
Significative. Le marteau étant d'ailleurs un des seuls objets qui est possédé à un moment donné.
Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Non, mais vous vous amuserez peut-être, si vous avez vraiment du temps à perdre, à retrouver les vignettes ou les planches où les auteurs, là, ils se sont amusés à réunir le marteau et la faucille, même parfois sur certaines vignettes.
Hein. Un Schtroumpf qui veut conquérir l'espace et qui est appelé Cosmo Schtroumpf et pas Spatio Schtroumpf ni Astro Schtroumpf.
Ben oui, c'est non, ben attendez, attendez. Hasard ou coïncidence ?
Ah, il n'y a voilà, pas
ça,
de hasard.
Ça, c'est pour Radio Complot.
Ensuite, on a une analyse très précise d'une comparaison physique entre le grand Schtroumpf et Marx et Staline.
Oui, alors voilà. Alors c'est là qu'on me reproche de ne pas avoir fait un truc universitaire. J'adore. C'est-à-dire que dans la pièce, alors je m'amuse et les gens, justement, la pièce lève toute ambiguïté sur la nature du bouquin. Alors sur mon PowerPoint, il y a la tronche de Marx et Staline et il y a mon grand Schtroumpf qui par ailleurs est un grand gars qui mesure à peu près 50 cm de plus que moi, qui est vraiment le Schtroumpf à contre-emploi. Vous pouvez pas imaginer pire et qui arrive comme ça et donc je leur sors cette ressemblance est frappante, n'est-ce pas? Les gens sont morts de rire, évidemment.
Et le Schtroumpf à lunettes qui lui-même évoque très clairement Staline.
Ah, non, pas Staline, Trotsky. Le Schtroumpf à lunettes, Trotsky.
Oui,
ben oui.
D'ailleurs, il y a peut-être une erreur à page 105.
À page 105, il faut le signaler.
Page 105, il y a une erreur.
Ah, d'accord. Ok, d'accord, bah, c'est bien. Oui, surtout que ça va sortir en poche.
Ça m'avait troublé.
Ok.
Alors,
ceci dit, le Schtroumpf à lunettes, on peut peut-être en dire un petit mot.
Oui, bien sûr.
Parce que le Schtroumpf à lunettes, c'est le seul personnage vraiment complexe de la série, c'est-à-dire le seul personnage qui a plusieurs facettes.
C'est l'intellectuel.
Alors, il y a plusieurs facettes. Donc, il y a cette première facette, c'est Trotsky. Parce que, évidemment, si on pousse le délire jusqu'à comparer le grand Schtroumpf à Staline ou Marx, lui, ce Schtroumpf à lunettes, qui est un moralisateur, qui n'arrête pas de donner des leçons au Schtroumpf, et surtout, qui passe son temps à se faire casser la gueule. Eh oui, je vous rappelle que le Schtroumpf à lunettes craint pour son intégrité physique. Bien sûr. Tout comme Trotsky craignait pour son intégrité physique, et avait bien raison, puisque, au grand dam de M. Poutou, Staline le fit assassiner par un agent du GPU en 1940. Bon, ben, il semble totalement autorisé, et même de bon ton, de frapper la gueule du Schtroumpf à lunettes. Ensuite, du coup, il peut apparaître comme un bouc émissaire. Alors vous voyez comme c'est pratique dans ma théorie du totalitarisme. Parce que évidemment, les totalitarismes ont besoin de désigner des ennemis du dedans et des ennemis du dehors. Et parmi les ennemis du dedans, on a toujours un bouc émissaire. Et là, hop, le monopole de la violence physique légitime, pour paraphraser Max Weber, paf, s'exerce sur un personnage, ce pauvre gars avec ses lunettes. Qui est le seul Schtroumpf d'ailleurs caractérisé par un élément plutôt dépréciateur. C'est-à-dire que ce qu'il caractérise, c'est un handicap, c'est une déficience visuelle. Il est effectivement aussi l'intellectuel, ça très très clairement, avec tout l'emmerdement que ça comporte. Et puis il y a
un dernier... Et l'inefficacité surtout, parce que...
Oui. Intellectuel d'ailleurs, on ne sait pas exactement quelle est sa compétence. Non, rien du tout, sauf par hasard. Et le dernier aspect qui est quand même, alors ça j'en étais assez content, c'est le côté flic. Parce que il est toujours derrière les Schtroumpfs à regarder, là on a la symbolique de sa prothèse oculaire, ses lunettes qui sont des loupes. Et donc c'est comme s'il regardait à la loupe ce que font chacun de ses camarades. Il est à mon sens tout ce qui pourrait rester de la police politique, et c'est pour ça qu'à mon avis il est totalement indissociable du grand Schtroumpf. C'est-à-dire que les deux forment les deux facettes du Janus totalitaire. Vous avez le visage sympathique et bonhomme du pouvoir qui est évidemment le grand Schtroumpf, et sa face sombre d'Arth Vador, c'est le Schtroumpf à lunettes. Et alors là, cette année, il m'est arrivé un truc absolument extraordinaire, c'est que le dernier album en date, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est les Schtroumpfs de l'ordre. Alors là, c'est pour moi la miracle, la consécration, la reconnaissance suprême, l'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire des auteurs de la BD à moi-même, puisque très clairement, ils me font passer un message, ils me disent « Bravo Bueno, et bien vu !» Et merci, parce que grâce à moi, dans cet album, ils ont pu outer le rôle de flic du Schtroumpf à lunettes. J'étais vraiment content.
Vous aurez bien compris qu'on a une démonstration absolument convaincante du lien entre le pays des Schtroumpfs et l'idéologie stalino-communiste. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu une réception très enthousiaste à l'époque sur fond de guerre froide de la réception des Schtroumpfs.
Mais ça, c'est intéressant, oui.
Oui, c'est intéressant, d'autant plus que tu nous as dit tout à l'heure, en introduction, si j'ai bien compris, que finalement les Schtroumpfs, à l'heure actuelle où on n'est plus du tout dans un contexte de guerre froide, ont une vraie reconnaissance aux États-Unis, mais ont des difficultés à l'avoir en URSS.
Ah oui, alors l'URSS s'est effondré. Mais...
Oui, enfin, ouais. Je déteste interviewer des enseignants à Sciences Po.
Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'est vachement intéressant. La réception américaine des Schtroumpfs. Alors, pourquoi c'est très intéressant? Parce que les États-Unis se sont d'emblée méfiés des Schtroumpfs pour deux raisons contradictoires. Un peu à la manière dont on a pu se méfier des Juifs, pour des raisons totalement opposées, qu'on accusait à la fois d'être d'affreux communistes et en même temps des chantres du capitalisme. Bon, ben là, c'était à peu près la même chose. D'abord, il y a eu la méfiance, évidemment, politique. On est en pleine paranoïa de guerre froide, et la méfiance politique des États-Unis vis-à-vis de ces petits êtres bleus européens qui vivent en collectivité, qui n'ont pas de propriété privée apparente. Donc cette paranoïa, elle a pu aller extrêmement loin, puisque aux États-Unis, le nom des Schtroumpfs, c'est les Smurfs. Eh bien, figurez-vous que ce nom a pu être interprété comme l'acronyme de « Small Men Under Red Forces » ou « Small Men Under Red Father », les petits hommes sous les forces rouges, les petits hommes sous un père rouge. Vous voyez jusqu'où c'est allé. Et on a reproché aussi aux Schtroumpfs exactement, je dirais pas l'inverse, mais quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. C'est le premier album, qui est « Les Schtroumpfs Noirs », dans lequel les États-Unis, avec leur politiquement correct qu'on connaît bien, ont pu vraiment voir une BD raciste. Alors, on reviendra peut-être sur le détail des Schtroumpfs noirs, mais du coup, c'est le seul album qu'ils ont refusé de traduire, alors qu'ils ont traduit et adapté tous les autres, pendant très longtemps. Et quand ils l'ont fait, c'est pour le transformer très substantiellement, pour en faire le beaucoup plus politiquement correct, évidemment, Purple Smurf, le Schtroumpf violet. Évidemment, ça passe mieux, mais c'est vous dire si les Schtroumpfs ont suscité quelque chose, au moins outre-Atlantique. Et puis, il y a un troisième point de corrélation entre les Schtroumpfs et les États-Unis, alors celui-là, le plus délirant de tous. Ça vient pas des Américains, ça vient de je sais pas qui d'ailleurs, mais on a pu se demander si les Schtroumpfs n'étaient pas une parodie du Ku Klux Klan. Alors, c'est vous dire si ce malheureux payot a tout entendu. Alors, les points communs, c'est que oui, c'est vrai que les Schtroumpfs ont des grands bonnets blancs comme les membres du clan. Oui, c'est vrai que le bonnet du grand Schtroumpf est rouge comme le bonnet du grand dragon, le chef des membres du clan. Et c'est vrai qu'il arrive aux Schtroumpfs de danser la nuit autour de feux de joie. Mais enfin,
je vais vous lire le passage.
De là en faire des racistes suprématistes.
Je vous lis quand même le passage. Deuxième coïncidence, la coloration noire de l'épiderme emporte une grave dégénérescence des individus. Les Schtroumpfs noirs perdent instantanément toute forme d'intelligence. Ils sont réduits à l'état d'être primitif qui ne se déplace plus qu'en sautant et en criant niap, niap, niap. Cela ne rappelle-t-il rien? C'est à peu près la manière dont pouvaient être perçus les Africains par les blancs colonisateurs au 19e siècle.
Oui,
on a des indices quand même assez troublants.
Non, c'est ça. Alors c'est vraiment pour les Schtroumpfs noirs. Alors vraiment, moi j'ai envie de dire pas de bol. Pas de bol pour les auteurs, parce que je crois pas du tout qu'il y ait une intention raciste, mais vraiment pas du tout. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai été très étonné de ce procès d'intention initial qu'on m'a fait, parce que j'étais tellement pas là-dedans. Donc non, il n'y a pas d'intention raciste, mais c'est vraiment pas de bol. Pourquoi? Parce que ils sont victimes d'une fâcheuse série de coïncidences quand ils sortent cet album. D'abord, ils le sortent en 50... C'est en 56, je sais plus. Oui, je crois que c'est en 56. Bref, c'est en pleine crise, en pleine décolonisation. Donc là, déjà, on a un contexte historique, historico-politique. Ensuite, l'ensemble des éléments qui caractérisent les Schtroumpfs noirs, c'est quand même gratiné, puisque les Schtroumpfs, quand ils sont malades, ils deviennent noirs. Quand ils sont noirs, ils deviennent effectivement débiles. Ils sont réduits à l'état de primates, qui ne savent plus marcher, qui ne savent plus que sauter en faisant niap-niap-niap. Et en plus, ils sont cannibales, puisque leur but, c'est de croquer les Schtroumpfs sains pour les contaminer. Alors ça fait quand même pas mal d'éléments qui peuvent effectivement faire penser à la manière dont on pouvait se représenter les Africains dans une optique colonialiste, et particulièrement quand on est belge. Parce que je vous rappelle que la Belgique avait mis en place l'un des systèmes coloniaux les plus paternalistes et rétrogrades de l'histoire du colonialisme.
Alors on arrive tout doucement vers le nazisme. Puisque,
ah ben là on est en plein dedans. Hein.
On a un monde raciste, on vient d'en parler. On a un monde antisémite,
oui.
On en parlait au début avec les traits caractéristiques de Gargamel, le méchant et d'Israël.
Asraël.
Asraël, pardon.
Oui, tac, ça va vite.
On a un monde misogyne et phallocrate. Est-ce qu'on a tous les ingrédients pour une théorie du nazisme, d'un modèle
bah, non, mais je dis attention, parce que ça aussi, c'est dans la nuance. Hein. Je ne dis pas que les Schtroumpfs sont nazis. Je dis juste qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rappellent ça, et d'autres qui rappellent le stalinisme, et la synthèse des deux, c'est le totalitarisme.
Voilà, donc...
Voilà.
Nous y sommes, nous approchons du dernier chapitre et de l'antidémocratie.
Ah oui, ça c'est bien, ça. Vous vous souvenez du Schtroumpfissime?
Je ne suis pas sûr que tout le monde s'en souvienne. Explique.
Alors, ok. Alors, je rappelle le contexte. Hein. Le contexte, c'est qu'on a premier album, les Schtroumpfs noirs. Bing, pas de bol. Troisième album, la Schtroumpfette. Alors, ce qui est brun ailé, ce qui est blond et beau, pas de bol. Et la phallocratie, la misogynie, elle est débile, la formule, sa création. Et entre les deux, on a quoi? On a le Schtroumpfissime. Et oh là là, exactement. Je vois que vous avez relu le Schtroumpfissime il y a peu de temps. Alors, je vous fais le pitch du Schtroumpfissime en deux mots pour vous rafraîchir vos souvenirs d'enfance. Dans le Schtroumpfissime, au début, le grand Schtroumpf doit quitter le village et le débat s'élève immédiatement de savoir qui sera le chef en son absence parmi les Schtroumpfs. Alors là, les Schtroumpfs ont une fausse bonne idée, c'est désigner leur leader au suffrage universel Schtroumpf, et une campagne est immédiatement organisée. Et là, un petit Schtroumpf, plus malin que les autres, comprend que c'est pas très compliqué de se faire élire. Il suffit, je cite, de leur faire des promesses. Ce qui d'ailleurs, dans le contexte actuel, pourrait nous rappeler quelque chose. Et donc, il se met à faire des promesses à n'importe qui en fonction de son interlocuteur. Alors, par exemple, des gâteaux tous les jours au Schtroumpf gourmand, la semaine des 35 heures au Schtroumpf paresseux, des lois contre le Schtroumpf à lunettes à tout le monde. Et évidemment, le jour du vote, il rafle la quasi-totalité des voix du village. Et dès qu'il est élu, commence une dangereuse dérive monarcho-dictatoriale. Puisqu'il se fait appeler Schtroumpfissime, il se constitue une garde prétorienne, et il réduit son peuple en esclavage pour se faire ériger son Élysée à lui. Alors, heureusement, le grand Schtroumpf vient vite remettre bon ordre à tout ça. Et donc, il y a deux interprétations possibles à cet album. Une interprétation, je dirais, indulgente, qui verrait une stigmatisation du populisme. C'est vrai que la démocratie peut conduire, comme ça a été le cas de l'Allemagne dans les années 30, à l'instauration de régimes dictatoriaux. Mais on peut avoir une interprétation un peu moins indulgente en disant que c'est la stigmatisation de la démocratie comme plus court chemin vers la plus abominable des dictatures, et que, en fait, il vaut mieux garder son bon dictateur, son bon vieux dictateur Grand Schtroumpf, c'est-à-dire l'autorité absolue et gérontocratique qu'il représente.
Et alors là, ce sera ma dernière question, parce que vous en avez sans doute beaucoup. Moi, j'en ai une vraie, sérieuse. Ah. C'est-à-dire que tu nous fais une déconstruction jubilatoire, certes, mais en même temps assez terrifiante, de ce qu'est la société utopique des Schtroumpfs. En même temps, tu sembles y pointer, et ça, c'est des théories extrêmement intéressantes, des aspects qui seraient communs à toutes les utopies qu'on pourrait essayer de construire. L'absence de désir, le collectivisme...
Qu'on pourrait essayer de construire...
Disons au moins une société stable, dont il semble dire que c'est la seule forme d'utopie qu'on puisse concevoir. Est-ce que toi, ça t'a donné envie d'essayer d'inventer une utopie ou de réfléchir à une utopie? Parce que c'est un sacrément beau sujet.
Oui.
Tu y as réfléchi en termes critiques, en termes d'analyse des utopies fondées par d'autres. Qu'est-ce que toi, ça provoque chez toi, dans ton côté créatif ?
Alors, donc, que les choses soient claires, je déteste, je hais les utopies. C'est une véritable catastrophe, les utopies. Et elles ont, disons, l'esprit utopique a conduit à des choses absolument abominables, et je ne vous fais absolument pas un dessin. Parce que, qu'est-ce que c'est l'esprit utopique ? C'est vouloir finalement faire table rase, complètement, de tout ce que nous sommes, de tout ce qui a été, et rebâtir une société rationnelle à partir d'un cadre préétabli qui ne prend pas en compte ce qu'est l'homme, qui postule de reformuler l'homme. Donc, il me semble que l'utopie est morte aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est précisément l'URSS qui l'a battue en brèche. Pourquoi ? Parce que, enfin, c'est pas l'URSS, c'est plus Marx. Quand Marx arrive, il dit non, on peut pas dessiner un tableau de la société idéale. En revanche, moi, je vous montre, je vous révèle une dynamique qui doit conduire à une société meilleure. C'est le matérialisme historique. Quand il a dit ça, il a foutu en l'air tous ceux qui nous présentaient un tableau idéal. Bon, le résultat, ça a été le plan quinquennal. Parce que si vous n'avez plus de projet, de tableau, si vous ne savez plus exactement vers quoi vous allez, vous n'avez plus que des objectifs quantitatifs et chiffrés. Et donc, ça a été le plan quinquennal de l'URSS. Partant de ce moment-là, la société actuelle, le monde actuel, se trouve privé d'utopie, c'est-à-dire privé de tableau idéal vers quoi aller. Et à mon sens, c'est pas une mauvaise chose, mais si on est privé d'utopie, on n'est pas privé d'utopique. C'est-à-dire que l'esprit de l'utopie consistant à transformer le monde et à outrance est à l'œuvre comme jamais dans notre société, et à mon sens, pour le pire, parce que d'un point de vue environnemental et énergétique, on est en train de courir vers une catastrophe fondamentale. Donc on n'a plus d'utopie, on a l'esprit de l'utopique, et à mon sens, il faut aussi reformater l'esprit de l'utopique après avoir battu en brèche l'utopie. Maintenant, si une nouvelle utopie apparaissait, ça serait une utopie qui, physiquement, conduirait à transformer l'homme, ce que les sciences et techniques actuelles nous permettent d'entrevoir.
Oui, je crois que je vais proposer au public d'enchaîner pendant les 5 minutes qui nous restent.
En gros, si j'ai peut-être pas, alors je vais peut-être me clarifier mon propos. Il y a eu plusieurs familles d'utopies. La dernière famille, ça a été les utopies socialistes que Marx a balayées d'un revers de main. La quatrième famille qui aurait pu émerger, c'est des utopies positivistes, c'est-à-dire fondées sur la science, fondées sur la biologie, les biotechnologies, etc. Au moment où ces utopies-là auraient pu naître, c'est l'inverse qui a vu le jour, c'est-à-dire les anti-utopies. C'est-à-dire qu'au moment où on aurait pu où on aurait dû même s'appuyer sur la science pour construire, pour imaginer des sociétés parfaites, de nouvelles sociétés parfaites, c'est fait jour une méfiance, au contraire, vis-à-vis de la technologie, qui a donné lieu exactement à l'antéchrist de cette quatrième génération d'utopie, c'est-à-dire des sociétés parfaitement totalitaires, dictatoriales. Et donc, si jamais s'il y avait une nouvelle forme d'utopie qui pouvait émerger, ça serait cette quatrième forme d'utopie, mais qui se fonderait sur un humain différents physiquement, biologiquement. Et il y a un certain nombre de penseurs, notamment aux États-Unis, que je suis moi de très près, et effectivement j'adhère à pas mal de leurs théories, c'est les transhumanistes, qui entrevoient la manière dont l'homme pourrait vraiment être dans son tréfonds changé par lui-même. Mais on est dans une optique non plus sociétale, mais vraiment physique et biologique. Bon, je réponds à toutes vos questions.
Il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal, il me semble, dans ce que tu dis. Oui. Tu reproches aux utopies traditionnelles de vouloir transformer l'homme pour qu'elle s'intègre dans des projets de société utopique, et tu es en train de nous parler d'une quatrième voie,
oui,
selon laquelle, dès le départ, c'est l'homme qu'on transforme.
Alors, tout à fait. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, à mon sens, ne l'est pas, parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les utopistes, sauf un, c'est Fourier. Fourier, c'est le génie. Alors oui, j'adhère, si on fait des utopies fourieristes, on peut, là, tous ensemble, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il part de ce qu'il observe.
Les transformés de Fourier.
Les quoi ?
Les transformés de Fourier, non, pardon.
Non, c'est pas ça.
Alors,
en fait, à part Fourier, les autres utopistes créent un cadre social, juridique, etc., dans lequel ils veulent faire rentrer l'homme de force. Alors que cette quatrième génération d'utopie dont je parle, moi, effectivement, commencerait par une vraie transformation, ce qui semble plus rationnel, de ce qu'est l'être humain, une transformation biologique. Voilà, c'est ça la différence. Bon, ben, je vous écoute. Ah oui, ben, peut-être, ouais.
Vous venez de dire rationnel, transformation. Barbara, là. Et puis si l'homme, il veut pas, enfin l'être humain, s'il veut pas qu'on transforme biologiquement, vous allez lui faire quoi?
Alors, donc, question là du premier rang, si l'homme veut pas qu'on le transforme, vous allez faire quoi? En fait, je suis pas certain que la question se posera en ces termes-là. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, vous me disiez, si vous voulez pas être guéri de la varicelle, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit.
En quoi vous... est-ce qu'être un humain comme nous sommes aujourd'hui est équivalent de la varicelle?
Eh bien, parce que naturellement, vous mourrez de la varicelle. Et le génie humain a conduit à inventer, à créer un certain nombre de capacités qui nous permettent de contrer cette nature-là. Et on peut la contrer maintenant jusqu'à l'immortalité et au-delà.
Oui, donc je connais. Oui, bien sûr. Oui. Transhumanisme.
Voilà.
Mais ouais. Être humain est mortel ouais. aussi, hein, de toute façon. De toute façon, être humain, c'est mortel.
Alors, être humain, c'est mourir de la variole jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin, et être mortel jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin, oui, pareil.
Est-ce que vous avez une dernière question? Il nous reste 3 minutes à peu près. Donc, tu ne vas pas nous écrire d'utopie tout de suite?
Ah ben, en fait, l'un de mes romans, Le soupir de l'immortel, et ce que moi, j'envisage comme étant la solution la plus utopique pour demain, c'est-à-dire la résolution de la question environnementale, énergétique, c'est-à-dire mettre en place un monde démocratique, humaniste et durable. Ça serait ça la plus grande utopie pour moi.
Il est disponible ici?
Oui.
Eh bien, en même temps que le petit livre bleu des Schtroumpfs, vous allez chercher le Soupir de l'immortel, qui est récent, hein, publié en
2009. Oui.
Je pense que nous arrivons au bout de notre temps, donc à moins que vous n'ayez une question urgente, vous aurez le plaisir de retrouver l'auteur dans la douce tiédeur de la bulle au livre, s'il a le courage d'aller s'enfermer sous la toile avec vous par 50 degrés à l'ombre.
Mais non, en fait, je crois que j'ai un autre débat.
Tout de suite après?
Oui, je sais.
Il faut vraiment qu'on te libère alors.
Oui, je sais plus où c'est d'ailleurs.
Eh bien, merci à Antoine et merci.
Ah oui, au Magic Mirror 2. Merci. Bah ouais, donc je pourrais pas, c'est con, parce que je peux pas signer du coup s'il y avait des gens qui...
Oh, mais ils vont rester...
Ah bon?
Si plus j'ai cru que j'allais devoir te chasser.
Bon, ça va, c'est bien, merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup.
Je me suis vraiment régalée avec vous.
Mais tu sais que ça m'a fait extrêmement plaisir, hein, tout ça, c'est... Honnêtement, je sais l'apprécier.
J'ai pris un plaisir d'en faire. Alors, en deux mots, je suis universitaire, je suis prof en sciences de l'information.
D'accord.
Et j'ai très bien compris le type de jubilation que...
Ben oui.
Et c'est la même jubilation que j'ai écrite de la SF.
Ben oui, bien sûr. Mais alors, toi, tu fais quoi exactement?
Moi, je suis auteur.
Ouais. Et...